Enfants radiophoniques vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Jean-François veut aller à la fenêtre. Mais là aussi, c'est bien fermé. Il demande, qu'est-ce que vous voulez pour remplacer par votre frère jumeau? Gilles se montre. Jean-François le regarde. Ils sont effrayés tous deux. C'est faux. Je suis... Non. Qui êtes-vous? Ceux qui vous ont mis sur le trône, hélas. On veut réparer notre erreur. Vous êtes fous? Non. On veut vous remplacer. Parce que vous avez mis la France dans un tel état. Pourquoi avez-vous fait de vos sujets des esclaves? Jean-François lui dit, ils se sont mis eux-mêmes les chaînes. Vous les avez aidés. Il regarde Gilles et lui dit, et lui, qui est-ce? Votre frère jumeau. Et votre successeur? J'ai pas de frère jumeau, c'est ridicule. Si c'est lui. Il essaye de sortir de la pièce. Là, c'est la porte des souterrains. Mais les gardes n'en l'empêchent. Il crie, au secours, au secours! Mais là, malheureusement, la pièce est bien insonorisée. On entend le bruit des émeutes qui grondent. Jean-François va vers Gilles et lui dit, si vous êtes mon frère, vous ne voulez certainement pas me tuer. Gilles lui dit, il le faut malheureusement. Georges dit, préparez-vous à mourir. Jean-François, d'un geste, s'empare de Gilles, par derrière, et dit, j'ai un poignard. Il la met à la gorge, sur la gorge de Gilles. Si vous bougez, je le tue. Georges et les autres ne bougent pas. Gilles, d'un mouvement de rein, fait tomber à terre Jean-François. Mais Jean-François reste accroché à lui. Il est sur lui. Gilles essaye de sortir de son emprise. Il roule à terre, l'un sur l'autre. Gilles finit par avoir le dessus. Il réussit à faire lâcher le poignard à Jean-François. Mais Jean-François le tient bien. Il roule encore et se mélange. Gilles tend le corps semblable à lui contre lui. Ça lui paraît étrange. Les autres ne peuvent l'intermédier. Ils ne savent plus qui est qui. Ils risquent de tuer Gilles. Tout d'un coup, ils se redressent tous les deux et se battent à coups de poing avec fureur. Près de la porte. À cause de leur cul, la porte s'ouvre. Ils sortent de la pièce et continuent à se battre. Le couloir et l'étage est désert. Parce que les compagnons de J.U. ont tué les gardes. Ils étaient remplacés par des gens à eux. Ils se battent avec haine. Rien ne compte pour eux. Plus rien n'existe que la haine de l'autre. Ils se battent dans les escaliers rouge enlacé dans les escaliers. En bas des escaliers, en se battant, il cogne une porte et entre dans une pièce. Georges, Pierre, Henri les suivent effrayés. Pierre crie : Mais qui est Gilles ? Qui est Gilles ? Il est effrayé, il ne sait plus. Les émeutiers, on entend, ils se sont tués à coups de mitraillette. Les deux jumeaux roulent à terre et se mélangent. Ils se mélangent et continuent à se battre. C'est terrible pour les autres. Ils en ont assez et aimeraient de savoir qui est qui. Ils se battent en s'approchant d'une fenêtre dont les volets n'ont pas été fermés. L'un est tombé du troisième étage. La foule crie. Pierre panique. Une folie criminelle s'empare de lui. Il ne sait plus. Il est effrayé. Il ne sait que faire. Tuer. Oui, il faut tuer celui qui est resté debout près de la fenêtre. Il vient de tirer sur celui qui était resté debout près de la fenêtre, qui est tombé. Pierre, effrayé de ce qu'il vient de faire, accourt, se penche. Mon Dieu, c'est peut-être Gilles que j'ai tué. Tué Gilles. L'autre est mort, il ne peut répondre. Pierre ne saura jamais qui l'a tué. Il est effrayé par son crime. C'est peut-être celui de son ami. Les autres sont surpris, sont paralysés. Il se met l'arme sur sa tempe. Il a tiré et est tombé. Les autres n'ont pu réagir. Effrayés par cette lutte à mort des deux frères, par leur mort et la mort de Pierre. Georges se penche pour savoir qui a été tué. Qui a tué Pierre? Il cherche, il peut voir. La foule envahit la pièce. On tire sur eux. Et on les jette à la fenêtre. Le corps d'un des deux frères est aussi jeté à la fenêtre et tombe sur son frère. La pièce est vide. La nuit tombe. Plus de bruit. L'ange et le démon, à jamais ensemble. Ni le bien, ni le mal n'a gagné. Ils resteront éternellement sur cette terre jusqu'à la fin des temps. Le bien et le mal luttera toujours pour avoir l'homme. Simara, début du résumé, le 20 mars 2007. Levé de rideau, fini le résumé, le 10 mai 2007 avec de nombreux arrêts. Début écrire histoire, le 28 mai 2007 avec de nombreux arrêts. Fini d'écrire l'histoire, le 3 juillet à 8 heures, ce qui me fait 1027 pages et 65 pages de levée de rideau, plus 200 pages, non, je crois que c'est 500 pages de résumé. Début d'enregistré au kilomètre, le mardi 30 octobre 2007 à 6 heures. Fini d'enregistrer au kilomètre, le 9 novembre 2007 à 16 heures. Enregistrer les émissions, c'est-à-dire couper l'histoire en petits bouts, le 10 novembre 2007 à 6 heures. Fini d'enregistrer les émissions le 14 novembre à 18 heures, ce qui fait 66 mini-disques qui ont été enregistrés. Voilà, c'est fini. Vous avez entendu la fin de Simara. L'histoire, je trouve qu'elle était assez bien enlevée, il n'y avait pas tant de morts. C'était assez rapide. Malheureusement, cette histoire, je l'ai écrite lorsque j'étais malade, j'étais pas bien du tout. Alors j'ai fait quelques erreurs et j'ai mal écrit aussi. En plus, lorsque j'ai enregistré cette émission, comme je ne suis pas encore guéri, malheureusement j'ai eu des difficultés à lire à haute voix. Et puis j'ai gaffé un peu, j'ai dit des mots qu'il ne fallait pas dire, enfin des mots à la place d'autres, etc. Veuillez m'en excuser. C'est dommage, cette histoire était pas mal. Mais, ma foi, il fallait absolument que je le fasse pour voir si j'étais capable, malgré ma maladie, de continuer à faire mes émissions, c'est-à-dire à écrire des histoires et à les enregistrer. Malheureusement, je vois que c'est extrêmement difficile. Enfin, je verrai, j'ai jusque, disons, jusqu'au printemps, pour savoir, pour décider si je vais continuer à faire des émissions, à écrire. Peut-être est-ce que je serai mieux du point de vue santé. Et printemps, je vais commencer à écrire, c'est-à-dire au mois de mars. Ensuite, je vais faire mes enregistrements d'émissions au mois de novembre, parce que lorsqu'il fait trop chaud, je ne fais pas d'émissions, j'enregistre pas d'émissions, étant donné que cela risque d'abîmer les appareils. Là, j'ai eu un ennui avec mon appareil qui enregistre les émissions. Cet appareil, lorsque je voulais sortir le mini-disque, j'étais obligé de débrancher l'appareil pour sortir le mini-disque parce que le toc de mémoire clignotait sans arrêt et bloquait toutes les commandes. Alors j'étais obligé de faire réparer cet appareil. Si je décide de recommencer mes émissions, il faudra peut-être que je m'achète un autre appareil que j'ai vu donc sur un catalogue qui est un appareil pour enregistrer de pro. Alors j'espère que ce sera mieux que celui-là. J'ai eu des ennuis, et oui, des ennuis avec les impôts. Vous me direz, je suis pas le seul. Mais là, franchement, ils vont bien. Alors, ils ont pris au hasard une personne, et c'est tombé à moi, sur moi, et ils ont regardé. Se sont aperçus, c'est que l'ordinateur s'était trompé. Oui, c'est toujours l'ordinateur qui se trompe, la pauvre bête. Elle a tous les malheurs du monde. Elle reçoit tous les malheurs du monde, c'est de sa faute à tout. Si tout va mal, c'est de sa faute. Alors, soi-disant que l'ordinateur s'étant trompé, sur 3 années, ils ont oublié de marquer... parce que je loue un studio qui où je suis propriétaire, de marquer sur mon studio, et puis ils ont oublié aussi beaucoup d'autres choses. Alors, ce qui fait sur 3 ans, ils me demandent gentiment, avec des menaces, bien entendu, ça c'est certain qu'ils donnent des menaces, malgré que ce soit eux qui ont fait la bêtise. Il me marque bien que moi, j'avais bien fait mes déclarations d'impôts, mais il faut tout de même menacer, étant donné que c'est eux qui sont les chefs, qui décident. Et ils m'ont dit, il faut payer d'urgence 8000 euros. Oui, 8000 euros que je leur dois. Moi, j'ai pas 8000 euros sur mon compte, c'est que 5000 euros. J'ai un mois pour leur répondre, et si d'ici un mois je ne leur réponds pas, eh bien, ils me prélèveront ce genre de choses, c'est 8000 euros, comme ça. Moi, je leur ai dit, j'aurais fait une lettre un peu salée, je leur ai dit que, d'abord, ils devraient s'excuser pour une erreur comme celle-là. Si c'était dans le privé, on aurait mis directement la personne à la porte, surtout pour une erreur aussi pareille. Qu'elles ont de la chance de ne pas être dans le privé. Et puis, je leur ai dit que, bon, le hasard a voulu que ce soit moi, que ça tombe sur moi, mais étant donné que durant 3 ans, l'État n'a pas eu besoin de cette somme, alors je vois pas pourquoi est-ce que maintenant je devrais vous donner cette somme, étant donné que l'État s'en est passé durant 3 ans. Et ces 3 années sont passées. Alors, il n'y a plus qu'à rayer tout ça, et puis c'est fini. Ils vont certainement dire, oui, mais le règlement, patati, patata, gna 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 gna, hein, parce que je vais aller les voir, et puis ils vont me dire, et puis moi je vais leur dire, mais le règlement dit aussi de bien faire votre travail. Mais là, ils vont rien dire du tout, hein. Alors moi, j'ai été tracassé pour trouver 8000 euros, je ne sais pas comment je vais faire, pendant que la personne qui a fait l'erreur, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle, c'est bientôt les vacances de fin d'année. Eh ben, madame va à vous recevoir sa prime de fin d'année, ou son 13e mois, ou son 15e mois, parce que pour certains, des fois, c'est 15 mois. Et puis, elle va partir en vacances, je ne sais pas où, à la neige, ou au pays chaud, je ne sais trop où. Et pendant que moi, eh ben, ma foi, il faudra que j'essaye de trouver cet argent. C'est pas possible, ça, c'est pas normal, ce genre de choses. C'est moi qui suis pénalisé, c'est moi qui suis puni, et l'autre qui a fait cette connerie-là, eh ben non, elle continue, et puis voilà. Alors, je vais demander un rendez-vous, j'ai tout préparé, mes papiers, et là, je vais sérieusement gueuler là-bas aux impôts. Non, mais là, ils vont bien, ils prennent les gens pour qui? Enfin, c'est comme ça, quoi. On a tout le temps des ennuis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt, des ennuis. Bon, alors maintenant, comme il reste encore pas mal de temps pour que la semaine se termine, j'ai tâché de vous lire une petite histoire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la lire, mais enfin, nous allons voir, hein. Voilà. Alors, ça s'appelle « Du vent dans la tête ». Il ouvre la porte de son appartement. appuie sur l'interrupteur de la lumière. Il ouvre une autre porte, entre dans la pièce commune. Quelle heure est-il ? 3 heures déjà ? Je suis crevé. On peut dire qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs, celui-là. Ça n'a pas été facile. Regarde-moi ça. Dans quel état je suis ? Il ne me reste plus qu'à aller dans la salle de bain et prendre une douche. Souhaitons que les vieux n'entendent pas trop le bruit de la douche. Il va dans la salle de bain, se déshabille. Demain, il faudra laver tout ça. Une fois déshabillé, il prend sa douche. Cela fait un drôle d'effet de dormir ici. Je n'en ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude des bruits, ni des ombres. Et puis il fait froid. Je n'ose pas mettre le chauffage en route. Je ne sais pas comment ça marche. Je verrai demain matin. Faudra aussi, c'est que je trouve du travail rapidement. Ça me fait tout de même une somme. 1800 francs par mois sans chauffage. Ce qui se fait passer, c'est pas de ma faute. Quel con ! On était bien, non ? J'allais chez lui, je l'aidais. Enfin, tant pis pour lui. Lendemain matin, il se lève, se rase, prend son petit déjeuner, s'habille. Cela fait drôle de m'habiller avec ses sous-vêtements. Enlève les draps du lit, refait le lit avec les draps neufs, remplit un vieux sac de voyage de linge sale et va à une laverie automatique. Le plus difficile, ce sera de trouver un emploi. Les jours passent. Il n'en sort presque pas de chez lui, sauf pour rechercher du travail. La journée, il regarde la télévision ou se repose. Tous les jours, il lit le journal. Ah, enfin, voilà. On l'a trouvé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Heureusement que j'avais retiré tout mon argent sur mon compte. Je vais attendre un peu, puis je le mettrai dans l'autre. Cela va surprendre la caisse d'épargne de voir que le compte se remplit, de ne plus l'avoir. Cela me fait des économies. Le jour, il reçoit une convocation pour une place. Il se prépare pour y aller. Voyons. Où se trouvent les certificats de travail des différents employeurs. Où cela peut-il être ? J'ai cherché de partout. Peut-être dans cette valise qui se trouve au-dessus de l'armoire. Il prend une valise dans la cuisine, la porte dans la chambre et monte dessus pour attraper la valise. Il la met à terre. Descend de la chaise et l'ouvre. Ah, voilà les papiers. Vendeur de 1980 à 1982, chez Bali. Puis cuisinier de 1982 à 1985. Puis plus rien. Cela ne va pas paraître bizarre, cuisinier ? Non, de toute façon, voilà le CAP. Allez, maintenant, dépêchons-nous de nous habiller. Il faut habiller. Il se regarde dans la glace. À quoi je ressemble ? Il se voit. Grand, mince, brun, dans les 25 ans. Il porte une veste marine et un pantalon bleu pâle. Heureusement que les vêtements me vont. Les chaussures sont un peu justes, mais ça peut aller. Il s'est présenté à Burton pour être vendeur. Comme il a présenté un certificat de travail, comme quoi il avait été vendeur chez Bali, il a été pris. On lui a demandé son adresse, son numéro de sécurité sociale, et tout.
Voilà, déjà 15 jours que je travaille. J'ai de la chance, ma nouvelle vie commence bien. Au magasin, une jeune vendeuse a le béguin pour moi. De jour en jour, elle s'accroche à moi. À la sortie du travail, j'ai toutes les peines du monde pour m'en débarrasser. Mon patron est satisfait de moi. Nous déjeunons tous les jours ensemble au petit bourg. Le soir, après mon travail, je rentre chez moi, mange en vitesse et sors. Je vais souvent traîner dans les pubs où marche tout le long des quais du Rhône et de la Saône. J'aime marcher, demander des heures la nuit, quelle heure il est la nuit. Quelquefois, l'on fait une rencontre sans se connaître, l'on parle assis sur un banc. Je me sens libre et bien. Cette nouvelle vie me plaît. C'est la vie qui me naît. Et quelquefois, j'ai l'impression d'être lui. Je sens son corps contre le mien, tellement qu'il me fait de l'effet. J'ai les mêmes pensées que lui. En vivant comme lui, j'ai l'impression de connaître ses moindres pensées. J'ai plus besoin de personne, puisque je suis une personne à part entière. Pas besoin de chercher quelqu'un pour faire l'amour. Il est à moi. Je n'ai qu'à me regarder dans la glace. La jeune vendeuse, Florence, l'a accompagnée jusqu'à son immeuble. 5 rue Bouteille, au deuxième étage d'un immeuble vétuste. Il n'a pas pu faire autrement que de l'inviter à prendre un verre. Il ouvre la porte et la fait entrer dans son petit couloir. En face de la porte d'entrée se trouve une porte qui mène à la salle commune. Elle voit que c'est une grande pièce rectangulaire, avec un coin cuisine.
Déshabillez-vous, Florence, je vous en prie, je vous offrirai à boire.
Elle quitte son manteau et s'assoit sur un fauteuil. Pendant ce temps, il prépare 2 verres de bourbon. Après avoir bavardé une heure de choses et d'autres, elle lui dit qu'elle doit partir. Elle se lève.
Vous êtes étrange, Michel. Vous ne m'avez pas fait la cour. Il cherchait à m'embrasser. Je vous plais donc pas?
Je ne dis pas ça, mais pour le moment, j'ai besoin de solitude.
Il soupire. Vont tous les deux vers la sortie. Avant de quitter la pièce, elle la regarde.
C'est étrange, comme cette pièce est rangée. Tous les objets sont bien disposés, rien ne traîne. Mais en voyant tout ça, j'ai l'impression d'être dans un musée. C'est froid, on dirait que personne ne vit ici.
Michel lui observe plus attentivement la pièce.
C'est parce que j'aime l'ordre, Florence.
Ils font quelques pas.
Peut-être, mais en plus de l'ordre, il y a quelque chose qui fait que tout semble momifié. Vous deviez sortir un peu, voir du monde, et changer votre décor.
Pourquoi a-t-elle dit cela? Oui, j'aime l'ordre et les objets. Il me rappelle tellement de souvenirs.
Florence n'est plus revenue et ne cherche plus à le revoir. Elle a compris qu'il n'y avait rien à faire avec lui.
Après 2 mois, j'ai enfin une voisine. C'est une mémé, dans Borde chez moi, qui m'a dit bonjour et c'est tout. Pas paru surprise de me voir. J'ai de la chance, les gens sont discrets. En faisant des rangements, j'ai retrouvé de vieilles photos de famille dans une vieille boîte à gâteau en allume. Cela m'a fait un choc. Je pensais tellement à lui, au présent, que j'aurais presque oublié notre passé et nos anciennes peines. Dommage. Cela gâche le calme présent. Lorsque je m'habille, cela me donne des frissons dans le corps. J'ai l'impression que mes mains ne sont pas les miennes, et que mon corps n'est pas le mien. J'ai pas de remords, mais quelquefois une grande amertume. Il m'arrive la nuit de me réveiller en sursaut, d'être surpris de me trouver seul dans un grand lit. Avant, je n'étais jamais seul. Et dans le demi-sommeil, je veux que mes oreilles entendent l'eau de la douche. Pour me trouver que si je n'étais pas près de moi et était dans la salle de bain. Mais dès que le jour paraît, je ressens bien avec moi-même et lui en moi. Je ne sais pourquoi, dans la journée et surtout le soir, j'ai comme si ma poitrine s'enfonçait. Le temps passe et un jour, nous lisons dans le journal, étrange affaire, a été trouvé mort dans son domicile au 5 rue Pierre Bouteille, Monsieur Michel Albin. Il était mort depuis plusieurs jours. Ses voisins ont été surpris de voir à la fenêtre, toujours à la même place, la silhouette d'un homme qui semblait plaqué contre la vitre. Ils sont chenés chez lui. Au bout du Nord, ont décidé d'appeler la police. La police est arrivée, a vu le corps plaqué contre la vitre. Il était mort depuis 2 jours d'une crise cardiaque. Monsieur Michel Albin vivait seul et ne semblait pas avoir de famille. Pour en savoir plus sur cette personne, la police a fait une perquisition dans son domicile. La personne n'a jamais eu de carte d'identité et on n'a pas ses empreintes digitales quelque part. Quelle ne fut pas la surprise des policiers, après une enquête, de s'apercevoir que le cadavre n'était pas M. Michel Albin. Ils arrivèrent à cette affirmation en fouillant les documents et les photos de la personne. Sur les photos où était écrit derrière la photo le nom de la personne photographiée, M. Michel Albin avait les yeux bleus alors que le mort avait les avait marrons. Qui était donc la victime? En fouillant, ils trouvèrent des lettres et des photos où Michel Albin était photographié avec un autre garçon. Ils se ressemblaient beaucoup tous les deux. On aurait dit 2 frères. De loin, l'un aurait pu prendre la place de l'autre, mais il y avait la couleur des yeux. Après une recherche minutieuse, la police a reconstitué les faits et l'histoire, surtout grâce à de nombreuses lettres écrites à la victime par François Xavier. Il y avait quelques années de cela, Michel, en vacances en Grèce, fit la connaissance de Xavier. Ils lièrent tout de suite une grande amitié. De retour en France, ils se revirent souvent. Un jour, Michel devait, pour son travail, partir pour quelques mois pour Perpignan. Il décida de donner les clés de son appartement et de sa boîte aux lettres à Xavier. Xavier fut très ému de cette confiance. Durant l'absence de Michel, il allait souvent dans son appartement et passait des heures à rêver. Il s'imaginait vivre avec Michel. Après 2 mois, Michel revint et lui donna les clés et lui dit qu'il pouvait. Il lui laissa les clés et dit qu'il pouvait passer un moment chez lui lorsqu'il serait absent. Xavier est de plus en plus surpris et heureux. Le temps passait ainsi. Xavier allait souvent la journée chez Michel à rêvasser d'une vie commune. Et il se mit de plus en plus à aimer Michel. Il se voyait ainsi aussi très souvent le soir. Au bout de quelque temps, Xavier se mit à croire que la vie allait toujours durer ainsi et qu'ils seraient toujours tous les deux. Malheureusement, il s'aperçut avec tristesse que Michel avait des aventures. Il s'en apercevait grâce à des traces qu'elle laissait dans l'appartement. Lié en désordre, découvrant 2 corps, serviettes tachées sur la table de nuit, tube de gel lubrifiant. Quelquefois, il arrivait chez Michel après avoir épié sa sortie. Il ouvrait la porte avec frénésie et une certaine jouissance. Dans la chambre, encore chaude de l'acte d'amour, je la rendais malade Xavier. De son voyeurisme,
Il avait l'impression, malgré sa douleur, de faire l'amour à trois. Il se disait « Pourquoi pas moi ?» Un soir, il se confia à Michel et lui dit qu'il souffrait beaucoup de ses aventures. Michel lui dit « Qu'est-ce que ça peut faire ? T'es toujours là et les autres ne font que passer ?» Xavier se sentit rassuré. Le temps passait. Et puis un jour, Michel fait la connaissance d'une autre personne. Il décida de vivre avec lui. Il le dit à Xavier. C'était à l'une de leurs soirées. Après avoir écouté quelques disques qu'ils aimaient tous les deux, Michel parla et vit que ça ne faisait pas plaisir à Xavier. « Mais écoute, tu n'as rien à craindre. Rien ne changera pour nous deux. Seulement, je vivrai avec quelqu'un et il faudra me rendre la clé. » Xavier soupira. « Ce ne sera jamais comme avant. Je ne pourrai plus venir chez toi quand tu n'es pas là. Tu ne seras plus jamais seul. » Michel voyait que la discussion allait durer indéfiniment. Lorsque Xavier était buté, il n'y avait rien à faire. Et ce soir-là, il était pressé, car il avait rendez-vous avec son nouvel ami pour lui montrer où il habitait. Il ne lui avait pas donné son adresse, il devait aller le chercher. Xavier était replié sur lui-même, à broyer du noir. Michel se leva. « Allez, Xavier, je suis pressé. Je suis pressé ce soir. Arrête de faire la tête et donne-moi la clé. » Il s'approche de Xavier et tend la main pour prendre la clé. Xavier soupire. « Oh, où tu vas encore ce soir ? Écoute, arrête, j'ai pas le temps. C'est pas vraiment le moment de me faire une scène. Tu vas encore voir ton mec ? Oui, et alors ? » Xavier hausse ses épaules. « Alors, tu me la donnes, cette clé ?» Xavier fait non de la tête. « Attends un peu. » Michel, furieux, se rassoit et prend une cigarette. « Je n'ai vraiment pas le temps, tu sais. Tu es impossible. » Après 2 minutes de silence, Michel regarde sa montre. Il se lève d'un coup. « Allez, écoute. J'en ai vraiment assez. Rends-moi cette clé. » Il s'approche de Xavier, toujours assis, sans bouger. « Attends, attends. » Il attend. « Écoute, ça suffit. » Il prend Xavier et le soulève du fauteuil. « Rends-moi cette clé. »« Non. »« Ah, tu vas voir. » Michel le frappe. « Rends-moi cette clé. » Xavier essaye de se dégager par un grand geste. Parce que Xavier l'a... Michel l'a pris au collet. Michel, il secoue Michel. Et le certifieur que Michel a de la peine à respirer. Une fureur terrible s'est emparée de lui. Il ne sait plus ce qu'il fait. Michel étouffe. Lui est en nage. Puis, au bout d'un moment, il le lâche violemment. Michel contre le rebord de la cheminée et tombe. Il ne se relève pas, ni ne bouge. Son visage est grimaçant et fixe. Xavier se penche vers lui. S'aperçoit qu'il est mort. Cette mort rapide, après cette scène, ne lui fait pas de peine. Il se dit « Tant pis, les dés sont joués. Maintenant, il faut que j'agisse pour me sortir de ce pétrin. » Malgré cette fardeur d'esprit, il aime toujours Michel. Mais c'est le genre de personne que lorsqu'ils ont fait une faute, elles se disent froidement « j'ai fait une bêtise. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait maintenant, c'est en supporter les conséquences, froidement, et cherche à s'en sortir. Les remords, les peines, après, lorsqu'il aura le temps, d'abord agir et mettre de l'ordre. Puis avant d'agir, réfléchir pour ne pas faire de gaffe. C'est ce qu'il fait. Durant 2 heures, il reste enfermé dans la pièce à réfléchir, faisant les 100 pas. Je pourrais m'en aller et laisser le cadavre ici. Non, c'est trop risqué pour moi. Appeler la police, j'aurai des ennuis à ne plus finir. Inconsciemment, il cherchait un moyen pour pouvoir continuer à venir dans cet appartement, car il avait pris l'habitude de passer des heures dans cet appartement à rêvasser à Michel. Tout ce qui l'entourait lui rappelait son ami. Il avait appris à l'aimer sans sa présence, même mieux qu'auprès de lui. Car lorsqu'il était près de Michel, il sentait gauche et ne savait pas quoi dire. Son amour était trop grand. Et auprès de l'autre, de l'être aimé, il devenait stupide. Tandis que seul dans son appartement, il pouvait sentir sa présence, toucher ses osselets en rêvant à lui ou en toute quiétude. C'est pour cela que la perte du corps, la mort de Michel, lui causait moins de peine que de perdre le monde qui l'entourait. Nous n'avons ni lui ni moi de famille. Nous vivons seuls, sans personne. Puis la personne avec qui il voulait vivre ne sait pas son adresse. Pas de carte d'identité, pas de chéquier, sauf livret de caisse d'épargne. Et moi, j'ai retiré tout ce que j'avais. Je connais sa signature. Personne ne connaît notre liaison. Nous sommes tous les deux chômeurs. Tout faire pour rester ici. Après mûre réflexion, il décida de prendre la place de Michel et Michel la sienne. Quelle heure est-il ? 23 heures. Ma voiture est en bas vers la boîte aux lettres. Tant pis. Tentons le tout pour le tout. Si je suis pris, nous verrons. Il s'habille, prend le corps sur le dos, sans faire attention à lui ou le regarder. Non, pour lui, ce n'était plus qu'un cadavre à se débarrasser. Ce n'était plus son ami. Son ami était tout ce qu'il laissait dans cet appartement et ses souvenirs. Le cadavre, c'était de la charogne à se débarrasser. En se cognant, Michel s'était fait une petite ouverture sur la nuque. Cela avait un peu saigné. Et en prenant le cadavre, Xavier avait taché ses mains et un peu son par-dessus. Il ouvrit la porte d'entrée, descendit les escaliers. Une fois dehors, mit le corps sur le siège arrière de sa voiture et partit. Il déposa le cadavre chez lui, prit son argent et toutes ses photos et partit. Tout se passa comme il l'avait prévu. Après quelques jours, l'on découvrit le cadavre, les voisins à cause de l'odeur. Il fut pris pour Xavier. La police classa l'affaire, faute de mieux. L'on pensa qu'il s'était tué en se cognant, mais on ne sait jamais comment. Xavier, lui, vivait à la place de Michel. Ils avaient tous deux la même taille. Les voisins ne le connaissaient pas vraiment. Xavier, sa personnalité se dédoubla. Son plaisir et ses excitations trouvaient dans cette double personnalité ce qu'il fallait pour aimer. Voilà, c'est fini cette petite histoire qui s'appelait « Du vent dans la tête ». une petite histoire que j'avais écrite, ou là, il y a longtemps, ça. Peut-être 20 ans, que j'ai retrouvé. J'avais fait une adaptation radiophonique avec les bruits et tout. Et là, c'est comme ça que je vous le présente. C'est fini pour le vent dans la tête. Maintenant, je vais vous lire. Je vais vous dire toutes les émissions que j'ai fait en mini-disque. Violente et crépuscule, 80 mini-disques. Imami, 140 mini-disques. L'élu, 346 mini-disques. Un mini-disque égale une heure d'émission. La spirale de verre, 156 mini-disques. La planche du diable, 110 mini-disques. Merveilleux Monsieur Bibé, 120 mini-disques. Le sang des dieux, 84 mini-disques. Caire, 84 mini-disques. La liberté des dieux, 68 mini-disques. Le garçon aux yeux verts, 56 mini-disques. Moire Luco, 26 mini-disques. Tout ça, c'est la série de l'élu. Maintenant, série sentimentale. Le monde de Claire, 2 mini-disques. La lumière intégrale, 14 mini-disques. Passion intérieure, 16 mini-disques. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis, 26 mini-disques. Douceur amère, 30 mini-disques. Maintenant, les séries unitaires. Le désir de la création, 64 mini-disques. Semer le vent, 64 mini-disques. Film intérieur, 48 mini-disques. Entre la lune et moi, 30 mini-disques. Le plaisir, 22 mini-disques. Un ange passe, 110 mini-disques. Le miroir brisé, 34 mini-disques. Et Simara que je viens de faire, ça fait 33 mini-disques. Ça, c'est pour les mini-disques. Je ne vous parle pas des cassettes parce qu'il y en a un millier de titres. C'est beaucoup trop. Voilà, c'est fini. Alors, je vous dis peut-être à l'année prochaine. Nous sommes en 2007, au mois de novembre 2007. Je ne sais pas si quand vous allez écouter cette émission, parce que comme vous avez vu, là, tous les mini-disques que j'ai faits d'avance, ça fait un paquet, sans compter les cassettes et tout. Peut-être lorsque je serai mort, ou peut-être jamais, on ne sait pas. Et je ne sais pas si je vais continuer mes émissions. Je verrai au mois de mars si tout va mieux. De toute façon, la semaine prochaine, je vois mon médecin. Tous les mois, je vois mon médecin. Et au mois de janvier, je retourne en réanimation avec mes radios, mes scanners, pour voir si tout va bien. Parce que je ne suis pas guéri. Mes poumons sont encore malades. Ils ont encore des saloperies. Et j'ai encore des difficultés pour respirer, pour marcher, etc. Allez, bonsoir. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Simara, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.